Merci infiniment à la Société Antarctique de l'Étude de France. Merci beaucoup Antoine pour votre présentation. Merci Monsieur Lannion et merci à vous tous d'être là ce soir. Alors, j'ai souvent le sentiment de radoter, vous savez, parce que ça fait des années que je répète un peu les mêmes choses, même si j'apporte quelques modifications, si vous voulez, que la conjoncture m'oblige à introduire pour, en quelque sorte, me mettre à jour de l'histoire. Sauf qu'il y a un élément invariant, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus, enfin, nous sommes toujours engagés dans les mêmes problématiques, sauf qu'aujourd'hui, ces problématiques prennent beaucoup d'extension, alors qu'elles étaient relativement, disons, réduites par endroit, par peuple, par société. Aujourd'hui, il y a une planétarisation de tous les phénomènes et de tous les problèmes. Et cette planétarisation des phénomènes met en évidence le fait que nous ne pouvons absolument pas continuer dans cette voie-là. Donc nous sommes plus que jamais sommés de changer pour ne pas disparaître. Je ne fais pas de soucis pour la planète, parce qu'on dit souvent protéger la planète. Non, la planète, elle relève de cette force extraordinaire qui est la vie. Et la vie, elle ne nous a pas attendu. Nous sommes un épiphénomène, certes, à grande amplitude et avec des dégâts que nous avons faits considérables, si on prend évidemment notre avènement si tardif, parce que quand on prend les fameux 24 heures de la naissance de la géologie de la planète et tout ce qui s'y est passé, toute cette longue histoire, eh bien, nous sommes là depuis 2 minutes. Et quand nous regardons ce que nous avons fait et que nous essayons d'examiner, de faire l'évaluation de ce que nous avons fait dans ces 2 minutes, on se rend compte que finalement, le phénomène humain, comme dirait Pierre de Chardin, devient de plus en plus ambigu dans le sens comment le comprendre. Comment comprendre ce phénomène humain qui théoriquement devrait être le fleuron, disons, de tout un processus de la vie, qui devrait être le fleuron dans le sens où il représente l'élément de conscience. Et qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est l'affinement, si vous voulez, de l'intelligence de la vie, qui à un certain moment donne à une créature particulière, donc c'est l'être humain, lui donne la possibilité à la fois de mieux, d'avoir plus d'entendement, il fait bien la différence entre entendement et intelligence, et à la fois, on se demande pourquoi elle a créé cette créature, parce que cette créature semble recevoir de la nature tout ce qu'elle reçoit de la nature, elle semble retourner contre la nature. J'avais écrit un poème un petit peu, disons, style Genèse, où j'imagine la planète Terre se préparant, bien avant notre avènement, elle se prépare, elle se fait belle, il y a les océans, il y a cette magnifique fourrure végétale avec toutes ces créatures, toutes aussi belles les unes que les autres, toujours en fête, vous voyez, ces oiseaux toujours colorés, ces poissons toujours colorés, ces êtres magnifiques et toutes ces choses-là. Et puis finalement, elle arrive au bout de... Après s'être fait très belle, elle s'est dit, mais ça sert à quoi? S'il n'y a pas quelqu'un pour admirer, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc il faut bien que quelqu'un admire. Et elle aurait pris le risque de l'être humain, en pensant que cet être humain va peut-être exalter cette beauté à travers l'exaltation de cette beauté, reconnaître la valeur magistrale et sacré de cette création. Et puis voilà que nous arrive l'être humain. Donc il y a cet avènement et il se trouve que après un temps où cet être humain se considérait comme appartenant à la vie, il a basculé vers la vie m'appartient. Alors, c'est là où se fait le clivage, si vous voulez, entre les peuples que l'on dit primitifs, mais qui ont la sagesse de reconnaître qu'ils font partie de cette vie et qu'ils sont donc une des belles manifestations de la vie. Et en ayant cette manifestation de la vie, il l'apercevait comme sacré. Et l'apercevant comme sacré, il voyait le divin en toute chose. Le sacré pour eux était une évidence. Le souffle divin, il est dans les sources, il est dans les rochers, il est dans les arbres, il est dans toute créature, et il est évidemment bien sûr en nous-mêmes. Et puis ensuite, le basculement s'est fait quand l'arrogance humaine, sortie de cette humilité et de cette intelligence profonde, de reconnaître que nous faisons partie de cette réalité, de ce réel, eh bien nous avons prétendu que ce réel, nous l'allions l'administrer à partir de toutes nos transgressions, c'est-à-dire ne plus être conforme à quoi que ce soit qui soit strictement dicté par la nature, mais aller vers la transgression. Cette transgression, je l'intitulerai, si vous voulez, à partir du moment où l'homme est passé d'un être qui parcourait l'espace pour survivre, cueilleur, chasseur, pêcheur, vous savez. Ça ne veut pas dire que c'était un instinct, qu'il n'y avait pas de violence, qu'il n'y avait pas d'horreur. Mais néanmoins, il était dans cette situation où il tirait parti des ressources de son biotope. Et au moment où il a découvert donc l'agriculture, c'est-à-dire la capacité de confier des graines à la terre et de passer contrat avec la terre, j'enfouis des graines, ça pousse et donc je me nourris. Mais ça a provoqué autre chose que se nourrir, ça a provoqué ici un phénomène qui est particulier, c'est-à-dire le stockage et donc la sécurité alimentaire. Je ne suis pas, disons, inquiet pour demain, puisque j'ai mon grenier qui est plein. Et au départ, évidemment, ce phénomène qu'on appelle la révolution néolithique ne partait pas seulement sur l'idée « Ah, nous avons trouvé une solution ». C'était aussi, ça s'accompagnait d'une interrogation des êtres humains primitifs, puisqu'ils viennent rentrer en agriculture, par toujours ce mystère, c'est-à-dire le mystère de la vie, et l'inexpliqué, et ce mystère qu'on n'explique pas. Et comme on ne peut pas l'expliquer, évidemment, on s'en remet au divin qui, lui, a le secret, et on lui rend hommage, et il a gratitude, mais on ne comprend pas. Et il y a donc tous les rites de propitiation, il y a tous les rites de reconnaissance, et l'être humain reste encore religieux. Et ensuite, ce sentiment d'appartenir qui était au cœur de chacun de ces individus, qu'on le voit encore chez des peuples qu'on appelle primitifs ou initiaux, j'appellerais ça initiaux, on est passé d'une spiritualité libre, à laquelle chacun ressentait les choses, au clergé, c'est-à-dire une spiritualité administrée et organisée. Et à partir du moment où on est passé dans cette organisation, ça s'est accompagné avec l'avènement des civilisations. Il y a assez à manger, il y a la sécurité alimentaire, donc on peut spéculer, on peut imaginer, on peut philosopher, on peut aller plus loin, etc. Et c'est comme ça que les civilisations ont émergé. Toutes les grandes civilisations orientales, asiatiques, etc., et on découvrira ensuite les grandes civilisations d'Amérique, etc. Mais le problème de la civilisation, c'est que l'être humain sort de ce qui lui revient légitimement, qu'il reconnaît comme faisant partie de ce qui entretient sa vie, à outrepasser ce qui est légitime. Et à partir du moment où il outrepasse ce qui est légitime, c'est-à-dire qu'il va, en fait, vouloir maîtriser beaucoup plus de choses, il va vouloir... La métaphysique se change, devient organisée, résulte de spéculations métaphysiques, et évidemment chaque civilisation a ses propres spéculations métaphysiques, et la conception même du divin ou de la spiritualité se diversifie en fonction des peuples. Voilà. Et en même temps, la civilisation est exigeante. Il faut agrandir les surfaces pour cultiver, ne serait-ce que pour récolter davantage, pour aller faire la guerre aussi, avoir des réserves. il faut plus d'espace pour faire paître les animaux, parce qu'on a domestiqué en même temps le végétal et l'animal. Et au départ, même certains peuples, on voit la domestication animale, elle était destinée à des grandes hécatombes, c'est-à-dire à des sacrifices que l'on rendait au divin à travers l'animal. Et même au lieu de courir après partout et avoir des difficultés, là, on le met en enclos, on le fait se reproduire. De même qu'on a rapproché le végétal de la maison, on l'a domestiqué, on peut le cultiver, on a des parcelles, et c'est ainsi la naissance petit à petit de l'agriculture. Mais quand on passe à la civilisation, cette civilisation sort du strict limite du nécessaire pour aller vers le superflu, ce qu'on pourrait appeler le superflu. Et alors, pour aller vers le superflu, on est déjà dans le toujours plus, et dans ce toujours plus, évidemment, il faut prélever des ressources. Et les ressources les plus accessibles, ce sont les forêts, ce sont les minerais, ce sont les forêts, tout ce qu'on a sous la main. Alors on a aussi bien de la matière morte, métallurgie, etc., mais de la matière vivante, qui est représentée par cette magnifique fourrure verte qu'on appelle forêt. Et l'énergie initiale n'était encore pas enfin, le pétrole, c'était cette ressource vivante. Alors on a recours de plus en plus à cette ressource vivante. Et qu'est-ce qui se passe? En agrandissant les parcelles pour pâturer, en agrandissant pour cultiver, en agrandissant, on veut cultiver, on veut construire des temples, des maisons, on veut construire des bateaux, c'est l'avènement de la métallurgie, c'est l'avènement de la poterie, c'est l'avènement, et au fur et à mesure qu'on avance dans ce qu'on appelle le progrès, c'est que l'être humain finalement rentre en civilisation, eh bien, ça s'accompagne d'un dépouillement graduel de cette fourrure vivante que l'on appelle la biosphère. Et certains peuples sont allés si loin qu'ils sont ensevelis sous le sable des déserts qu'ils ont provoqués. Et nous admirons certains vestiges de ces grandes civilisations, mais il faut savoir que ces vestiges que nous admirons aujourd'hui, elles ont eu pour corollaire, évidemment, le dépouillement et l'atteinte à la biosphère. Je vous conseille très vivement de lire un livre que nous venons de publier avec mon ami Capitani de Actes Sud, j'ai été tellement harcelé qu'on a fini par le publier, qui s'intitule « La planète au pillage » d'un certain Philippe Osborne, qui a été publié en 1949 et qui relate toute l'histoire de l'impact de l'être humain sur la planète Terre. Et il va si loin dans cet impact qu'il nous considère bien au-delà d'un simple phénomène biologique, nous serions aussi un phénomène géologique. Parce que quand on voit ce que nous avons déplacé comme matière, tout ce que nous, le bouleversement que nous avons provoqué sur la planète, évidemment, nous ne sommes pas qu'un phénomène biologique, puisque nous avons pu modifier même configuration, la complexion de la biosphère. Et puis, petit à petit, notre histoire s'est enclenchée, si vous voulez, sur cette espèce de malentendu qui a fait que l'être humain a perdu toute satisfaction, c'est-à-dire de limite, il ne s'est donné aucune limite, et ne se donnant aucune limite, bien évidemment, parti, nous n'avons plus perçu la planète comme un magnifique oasis, un véritable miracle extraordinaire qu'il a fallu. Il a fallu la conjonction d'éléments ténus, très improbables, pour arriver à voir cette magnifique planète. Est-ce que la distance par rapport au Soleil, enfin, vous savez, qu'est-ce qu'il a fallu comme mise au point pour que cette petite planète miracle puisse naître miraculeusement. Et nous sommes conscients que nous n'avons que celle-là. Alors au lieu de la considérer comme une oasis magnifique, un don extraordinaire qui nous est fait, un don extrêmement rare, nous la considérons comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier rare. Et ce principe-là, si vous voulez, il n'est pas né aujourd'hui, il est né depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes pulsions de possessivité,
d'arracher le plus possible, de dépecer la terre et d'arracher les meilleurs morceaux, chacun y allant, de ses griffes, eh bien, que aujourd'hui, nous sommes en danger parce que ces pulsions que nous avons depuis les origines sont maintenant efficacement instrumentalisées. C'est-à-dire entre les hommes qui coupaient des arbres avec une cognée, une hache, et celui qui dispose d'une tronçonneuse, c'est quand même pas la même chose. Vous avez un arbre, et je l'ai vu avec, presque en pleurant vers chez moi, un arbre magnifique qui appartenait à un voisin, je l'ai vu acheter cet arbre, en disant, mais laissez-le debout, je vous l'achète tel quel, etc. Et il était dans une pulsion, je suis propriétaire, je sais ce que c'est. Et sachant que je suis écolo, ça a dû exacerber encore sa réaction. Bon, je n'ai évidemment pas de contentieux avec lui, mais j'ai vu cet arbre, chêne, tellement magnifique, abattu en environ 20 minutes. Et alors qu'il j'évaluais, je ne suis pas un très bon spécialiste, mais j'évaluais son existence, cet arbre à 400 ans, 300 ou 400 ans. Donc vous avez d'un côté 300 ou 400 ans, de l'autre côté 20 minutes pour abattre un arbre qui a 400 ans. Ça vous donne symboliquement une idée sur la prédation, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'être humain à être un prédateur. Il en va de même pour les viols, la violence, entre taper sur le crâne de son voisin, une massue, je ne sais pas quoi, et appuyer sur un bouton et envoyer un missile qui va détruire 15 000 personnes, c'est la même pulsion de la prière, mais elle est instrumentalisée. Il en va de même, évidemment, pour tous les outils que la modernité a inventés et qui sont sortis de la mesure strictement humaine pour rentrer dans la démesure de nos pulsions négatives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une accélération des processus de dégradation de cette magnifique sphère terrestre, et avec, évidemment, la perspective d'une finitude, non pas la finitude de la planète, mais la finitude des capacités de cette planète à entretenir la vie des êtres humains. Donc là, on est dans un dilemme. Il ne faut pas, disons, rentrer dans l'idée, nous sommes au bord du précipice et nous allons faire un pas en avant. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut donc comprendre que nous avons à repenser le monde et la vie, mais on ne pourra jamais repenser le monde et la vie correctement si on n'intègre pas l'aspect sacré. Ça ne veut pas dire spirituel, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est le sacré, c'est-à-dire reconnaître la vie en toute chose. Alors, il y a une anecdote concernant le comportement et la prédation humaine. Il se trouve que j'avais assisté à une émission de télévision dans laquelle il y a une dame qui interviewait un milliardaire très satisfait de lui, très fier de lui, et j'avais réussi. Et sa posture, son attitude, mettait en évidence tout son triomphe, tout ce côté est extrêmement performant. Et alors, la dame qui l'interroge lui demande, est-ce que vous ne vous sentez pas prédateur? Il répond, ah oui, la prédation, toute la nature. C'est là qu'il a le recours à Darwin, a appelé au secours Darwin pour justifier la prédation comme étant une loi générale, une règle générale. Et c'est la difficulté quand vous êtes devant la télévision, c'est que vous écoutez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous ne pouvez rien dire. Donc je préfère regarder Colombo, au moins c'est sûr, que je n'ai pas de problème. C'est ça qui est énervant, c'est que vous participez à un débat, mais dans ce débat, vous n'êtes pas d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, pas tout pour vous. Donc vous trépignez sur votre chaise et puis voilà, ça se passe comme ça. Et ensuite la dame, elle est passée à autre chose, l'affaire était entendue. Et c'est très grave, parce que l'affaire était entendue, parce qu'on a, ce monsieur posait des principes d'un débat extraordinaire pour être un débat très différent Mais il a été, ce débat n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas accueilli la question à sa juste valeur. Alors du coup, je me suis dit, mais c'est une aberration, parce que si j'avais assisté à ce débat, j'aurais dit à ce monsieur, non, je regrette, vous ne pouvez pas comparer la prédation humaine avec la prédation animale. Il se trouve que dans la prédation animale, quand un lion a mangé une antilope, et bien il digère son antilope. Mais il ne passe pas son temps à... Il n'a pas de banque d'antilopes et il n'a pas d'entrepôt d'antilopes. Il ne passe pas son temps libre à aller chercher des antilopes pour le prendre en copain. Et il arrive même que des fois, je ne sais pas si vous avez vu ces photos merveilleuses d'animaux qui devraient se livrer entre eux, qui sont autour de l'eau et autour de la mare, comme une espèce d'apaisement, où l'antilope est à côté du lion, à côté du zèbre, et tout le monde boit. Quand vous avez vu ces photos-là, c'est ça. Eh bien, à partir du moment où l'animal n'a pas besoin, si vous voulez, n'a pas de besoin vital, il ne prélève pas ce qui outrepasse, disons, son besoin. De même, chez les êtres humains, moi je suis très sensible à la cosmogonie, par exemple, des Sioux, parce que je trouve que c'est un peuple qui si je devais renaître, je demanderais à la renaître Sioux, comme avant, pas maintenant, évidemment, dans une réserve en train de mourir d'alcool. Mais ce qui avait d'intéressant dans cette vision, c'est que ce peuple-là, malgré l'abondance du gibier, malgré l'abondance du bison, etc., il ne prélevait jamais plus que ce qu'il en prenait. Et quand il allait prélever, il rendait grâce, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la gratitude, et en même temps, pas le moindre organe de l'animal sacrifié ne doit être destiné, malgré l'abondance. C'est-à-dire qu'ils étaient frugaux dans l'abondance. Ils s'étaient mis une limite intérieure, même dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que ce qu'ils auraient donné n'est pas un dû. Nous laissons tout nu, nous mourrons tout nu, et tout le reste au long de notre vie, ce qui nous est donné, nous est donné. Pas un droit. Donc nous sommes octroyés le droit, nous n'avons pas un droit particulier. Si on essaie d'examiner l'ensemble du système écologique tel qu'il a existé dès le début, où vous aviez 1 milliard 300 millions d'espèces qui vivaient sur la planète, et miraculeusement sans le moindre épuisement. C'est-à-dire qu'il y avait des régulations, puisque quand une espèce outrepassait le seuil, elle disparaissait, et une autre la remplaçait, et des extinctions. Ben, l'écologie, c'est une leçon magnifique d'économie, parce que aujourd'hui, on parle d'économie, mais alors qu'il n'y a rien qui a moins mérité le magnifique nom d'économie que ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, c'est la dissipation, c'est la gaspillage, on donne des prix Nobel à l'économie, à des économistes qui ne parlent pas d'économie, ils parlent de tout, il faut appeler ça autre chose. On va appeler ça la prédation généralisée, l'insatiabilité permanente, mais ce n'est certainement pas l'économie. Alors du coup, on est dans un malentendu, et ce malentendu, il a introduit quelque chose, il est l'un des fondements de ces paradigmes qui ont fait que moi-même, quand on m'a poussé en 2002 à me présenter aux élections présidentielles, j'avais mis la décroissance soutenable comme étant l'un des fondements du nouveau paradigme. Et j'avais effectivement appelé à l'insurrection des consciences parce que je suis tellement conscient, enfin, moi je l'espère, j'espère être justement conscient, mais j'aimerais même ne pas être conscient que nous arrivons à, il y a une urgence écologique et humaine absolue qui ne peut pas souffrir d'être différente. Et tout ce que nous avons comme réponse par rapport à ce phénomène d'écologie, proprement dit, c'est de dire, ben voilà, on va créer des Grenelles, on va créer des... il y a le développement durable, etc. Mais quel développement durable, quel Grenelle? L'enjeu est tellement énorme, politique, géopolitique. En gros, on essaie de nous faire quelques petites économies d'énergie, de machin, de bricolage. Vous avez la Chine qui maintenant entre comme un pays émergent, qui est en train de polluer avec les mines, qui est en train de... La prédation s'est accélérée. À tel point que quand on vous dit, par exemple, l'Indonésie a augmenté son PIB, son PNB de 10%, mais on ne vous dit jamais qu'on a augmenté le PIB et le PNB, ça se traduit par la destruction X milliers d'hectares en forêt. C'est-à-dire que la nature, en fait, et les biens de la nature sont considérés, voilà, comme les éléments qui amènent, qui font du fric. Mais on ne prend pas en compte que ce patrimoine collectif vital, indispensable à aujourd'hui et à demain, pour les générations futures, que nous sommes en train de dilapider. C'est-à-dire la notion même de dilapidation d'un patrimoine sur une planète limitée. Que disait Hegel, par exemple, l'économiste qui a mis en point l'histoire de la décroissance, c'est-à-dire, nous avons une planète limitée, de nature limitée, magnifiquement régulée dans l'industrie. Dans l'industrie, la régulation se fait toute seule. Parce que les prélèvements qui sont normaux, légitimes et limités permettraient de maintenir le système dans une pérennité extraordinaire. Et c'est en cela que l'écologie est quelque chose de magnifique. Parce qu'elle nous donne une leçon d'économie. La nature n'a pas de poubelle. Et tout ce qu'elle produit, elle aussi. Et nous sommes dans un système où tout ce que nous produisons se traduit par 30-40% de déchets, c'est-à-dire des choses absolument inutiles et qui participent à l'accélération de l'épuisement de ressources de cette planète. Et alors, vous avez donc ce système duquel nous sommes éloignés, et qui a été suractivé par l'avènement de la révolution industrielle. Le paradigme d'aujourd'hui, il est fondé sur la révolution industrielle, c'est-à-dire où l'être humain, à partir d'une certaine période, s'est considéré comme démiurge. C'est-à-dire, vous allez voir ce que vous allez voir avec la raison pure, avec mon entendement, ma raison pure, je vais en fait ressaisir mon destin, et ce destin, de l'administrer et l'orienter à ma façon, à ma convenance, sans prendre en compte ni la nature, ni le divin, ni l'esprit. Je vais, moi, être humain, avec la science, la technique, etc., et bien déterminer la vie de façon. Et c'est la naissance de ce avec quoi j'ai un énorme contentieux, la modernité. C'est-à-dire les mythes fondateurs de la modernité. Le mythe fondateur de la modernité, c'est un être humain triomphant, c'est-à-dire prométhéen, et qui n'a cure ni de la nature ni du divin. Seulement, il a instauré un système dans lequel la rationalité a pris tellement d'importance que cette rationalité a occulté nos autres façons d'appréhender le monde, comme l'ont fait depuis longtemps nos ancêtres. Qui appréhendait le monde pas seulement par l'intellect, mais l'appréhendait par leur sensation, par leur intuition. Et l'intuition est considérée comme polluante de la science, parce que la science, il ne faut pas être. Alors que c'est l'intuition qui fait évoluer la science. Jamais Einstein ou bien d'autres savants n'auraient fait avancer la connaissance sans intuition. Et on considère que la rationalité est l'élément socle fondamental sur lequel on va tout construire. Et à ce moment-là, on a masculinisé notre système. C'est-à-dire, par la technologie, j'ai cherché dans tout dictionnaire, j'ai cherché comme j'ai pu, je n'ai jamais trouvé une femme qui ait inventé, par exemple, un engrenage, une manivelle, ça ne semblait pas les intéresser. Que Madame Curie, enfin, mais autrement, moi je suis très content qu'on m'apprenne qu'il y a une femme qui a inventé, je ne sais pas quoi, une bière, je ne sais sais pas, je ne trouve pas. Donc il y a une forme de masculinisation de notre paradigme qui a exacerbé tout le côté violent, le côté puissant. Ça, c'est une espèce de bicepse permanent, mental, partout. Et je ne dis pas parce que je suis jaloux, c'est pas. C'est sur le biceps, il y a le biceps aussi symbolique, si vous voulez, il n'y a pas que le biceps physiologique. La force. Et cette force a généré un antagonisme structurel qui a abouti à cette fragmentation de notre système vivant. Quand vous regardez la planète de l'espace, nous en avons aujourd'hui la capacité d'admirer notre planète, elle met en évidence le fait qu'elle est une et indivisible. Il n'y a rien. Naturellement, il n'y a rien qui divise la planète. Il n'y a pas un pôle contre un autre, l'éléphant d'Asie contre l'éléphant d'Afrique. Il y a une unité de ce réel. Et c'est la réalité que nous avons créée nous-mêmes qui a amené fragmentation d'un système unitaire. Et quand vous regardez la même planète représentée sur une map monde, qu'est-ce que vous voyez? Un puzzle de nations qui cherchent de s'emboîter les unes aux autres. Et chaque nation est circonscrite dans son territoire, et chaque territoire, évidemment, vise à survivre. Et donc, c'est l'antagonisme et la compétitivité, à la fois économique, à la fois militaire, etc. Et en s'enfermant dans des frontières sécuritaires, ça génère, qui sont censées produire de la sécurité, ben, ça produit de l'insécurité. Et l'insécurité va nous amener à dire qu'il faut des armements pour défendre, il faut, etc. Et ça justifie, si vous voulez, toutes ces horreurs, ces inventions complètement stupides et négatives, qui démontrent bien que l'espèce humaine n'est pas intelligente. Et si nous étions intelligents, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc du coup, cet antagonisme et cette fragmentation d'un réel militaire a amené un mode de pensée. Il porte la pensée moderne, et cette pensée moderne qui s'est détachée du global, de quelque chose qui est relié à l'indivisible, vers le fragment. À tel point que ça a même atteint la médecine, vous voyez. Quand je ne parle pas de la Terre, la médecine c'est quoi? On fait de la dissection, on étudie le corps humain, on étudie les organes, et puis chacun s'empare d'un organe et on fait sa spécialité. Ce qui fait que vous rentrez dans le pénorisme, si vous voulez, aujourd'hui, pour être soigné, c'est énorme. Vous allez voir quelqu'un qui s'occupe de l'oreille, l'autre qui s'occupe du pied, troisième s'occupe, et on est en train de courir d'un spécialiste à l'autre, alors qu'en fait, à l'évidence, notre corps et notre esprit sont un et indivisibles, et que par conséquent, la sagesse des médecines chinoises, etc., était beaucoup plus juste en disant que c'est une globalité, non seulement l'individu est global, mais il est inscrit aussi à quelque chose de militaire. Et moi, je me suis monté à Paris parce que j'avais un acupuncteur chinois qui était devenu un peu mon ami qui me soignait, et je voyais toujours que son réveil n'était jamais à l'heure. Alors je lui signale un jour, et il me dit non, c'est pas l'heure de l'horloge actuelle, c'est l'heure cosmique, c'est l'heure, etc. C'est ça qui me dit. Donc ils étaient dans ce système militaire. Et en passant à cette fragmentation, eh bien, on a exacerbé d'abord la révolution industrielle. Qu'est-ce qui a fait la révolution industrielle? Elle a exhumé la matière morte du sous-sol, qu'elle a exaltée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation minérale. Et je dirais, civilisation minérale qui est aussi civilisation de la combustion énergétique. On est bien embêté. Et vous êtes tous venus grâce à la combustion énergétique. Enfin, je sais ce qu'on peut voir. Au moins que certains soient venus en char à bœuf ou en calèche.
Vélo?
Comment?
Vélo. Vélo.
À la rigueur de vélo. Il est aussi élément industriel, mais enfin, c'est intelligent, puisque ça prend l'énergie métabolique, c'est-à-dire moins l'énergie physique, qui se combine avec l'énergie mécanique, et à ce moment-là, je suis propulsé par mon énergie propre. Avec un outil qu'on appelle le vélo. Ça, c'est une excellente invention. Mais je pense que la plupart, en tout cas moi, je ne suis pas venu, je suis venu avec Corinne, mon assistante, lieu dans une 308, je crois, 308, qui est la combustion. Sauf qu'il y a un paradoxe. Alors quand on est deux, quand on peut dire le ratio est à peu près bon, mais quand je suis tout seul dans ma voiture, je pèse 52 kg et ma voiture pèse 1,5 tonne. C'est-à-dire jamais il n'y avait une logique pareille, vous devez dire qu'il faut 1,5 tonne pour déplacer 52 kg. C'est complètement aberrant, complètement stupide. C'est comme jouer au billard avec une poutre. C'est aussi plus que ça. Et ça, c'est très symbolique d'une autre sens, si vous voulez, dans lequel nous sommes tombés. Et cette voiture, qu'est-ce qu'elle a provoqué? D'abord, 80% de l'énergie que vous mettez dedans ne sert qu'à réchauffer l'atmosphère. Il n'y a que 20% qui vous aide vraiment à vous déplacer. Elle nous a fait percevoir le temps et l'espace autrement. Nous devons organiser notre espace de vie dans la dispersion. L'école là-bas, le travail de l'autre côté, le commerce là-bas, etc. Ce qui fait que la voiture est devenue indispensable parce qu'elle relie les différents pôles qui sont nécessaires à notre existence. C'est qu'avant, on faisait intelligemment avec ces gens. On rapprochait au moins les choses. Entre elles, cette dispersion a amené donc un système qui nous a installé dans le traquenard, nous ne pouvons plus nous passer de nos outils. C'est-à-dire que l'outil qui était censé aider, améliorer la condition, eh bien cet outil-là, ben, est devenu indispensable. Aujourd'hui, j'entends dire « Ah, l'ordinateur ne fonctionne pas, mon truc, etc. » Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil qui était censé nous servir, nous est en train de nous asservir. Et cet asservissement fait que il y a des outils que nous amenons comme substitution aux défaillances humaines. Aujourd'hui, nous avons des moyens, des outils de communication, mais nous avons de moins en moins de relations. C'est-à-dire que ça pallie le manque de relations, pallie par la communication. En plus, ce sont des outils qui relient les solitudes, qui connectent les solitudes, puisque nous sommes dans une société de la chute. Ça ne veut pas dire que je suis contre ces outils, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces outils sont devenus extrêmement perfectionnés, mais la conscience qui les utilise, qui les utiliserait rationnellement en les subordonnant, en les maintenant comme des outils, n'est pas assez évoluée pour pouvoir en faire des outils utiles. Donc du coup, on est de plus en plus asservi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est de plus en plus asservi par les outils? Et que dès qu'ils s'arrêtent de fonctionner, ben, ça y est, on est perdu. Moi, je connais quelqu'un, son ordinateur ne marche pas, il est malade, bien malade. Parce qu'il y a une simple, une telle, comment dire, et il y a un état symbiotique, enfin, tellement fusionnel avec l'outil, que l'outil devient presque un organe physiologique supplémentaire qui est indispensable à la vie quotidienne. Donc tout ça fait partie de toute cette évolution dans laquelle nous ne nous rendons pas compte que la civilisation, disons, industrielle, est passée par l'exhumation de la matière morte, retournée contre la biosphère, et ensuite surtout l'aliénation humaine. Et l'aliénation humaine, c'est-à-dire le progrès censé améliorer la condition humaine, a provoqué au contraire une parité. Entre le nord et le sud, qui est une catastrophe. Les pays disposant de technologies avancent à grande vitesse, même sans savoir exactement où ils vont. Et puis, il y a 4/5 de l'humanité qui essaie de suivre quand même peu. Et cette disparité qui a été provoquée, on peut l'imaginer 5 personnes autour d'une table. Il y a 5 pommes, il y en a une qui en prend 4, les unes ou 4 autres, ben c'est un peu dans ce ratio-là. Et ce qui reste pour les 4 autres, la première des 4 va prendre la moitié, la deuxième va prendre le quart, et le dernier quart va être inéquitablement partagé entre les deux. Ce qui fait que vous avez une structure pyramidale mondiale, dans laquelle vous avez des hyperlentilles qui font une concentration et extraordinaire de tout l'effort collectif. Et puis vous avez la frange des indigents, l'indigence. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre, par le fait même que l'humanité subit cette partition, et cette partition fait que l'humanité se déséquilibre. Et quant à l'aliénation, moi je l'ai vécu de façon très très directe, parce que je suis né dans le désert, dans l'Oasis du sud de l'Algérie, j'ai écrit un livre d'ailleurs pour témoigner, qui s'appelle « Sahara en Cévennes ». Et pour ne pas qu'on confonde avec un rallye Paris-Dakar à l'envers, j'avais ajouté la reconquête du songe. Et ce que j'entendais par la reconquête du songe, c'était de dire, nous sommes prisonniers d'un temps déterminé. Et ce temps qui nous maintient complètement déterminés, puisque nous n'avons pas de... Et à force d'avoir introduit ce temps suractivé, le temps suractivé correspond à la productivité, à l'humanité. Et quand j'ai vécu, j'ai quitté l'Algérie, je suis allé à Paris pour trouver du boulot, tout seul, exclu de mes deux cultures, etc. Enfin, vous faites grâce de toute l'histoire. Mais ce qui était intéressant, c'est que je faisais à ce moment-là ce qu'on appelle la philologie de l'histoire et que j'observais les phénomènes et les systèmes. Quand vous faites de l'anthropologie, vous examinez les systèmes et vous voyez comment les communautés humaines s'organisent. Et quand j'ai essayé d'examiner notre système actuel, à partir de l'entreprise où je travaillais, Soreca, à Puteaux, donc où il y avait des milliers de personnes travaillant dans la même entreprise, et que j'observais la configuration et l'organisation de cette entreprise, qu'est-ce que je voyais? Vous voyez une pyramide. Voilà. C'était pyramidal, avec des gens de dame en haut et des gens de bas de dame en bas. Et nous, moi, quand j'ai cherché du travail, on m'a dit qu'est-ce que vous savez faire? Malheureusement, je savais faire une très bonne dissertation sur Socrate, que j'aimais beaucoup, mais ça ne semblait pas intéresser mon entraîneur. Donc je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, en fait, ouvrier spécialisé, c'est celui justement qui n'est spécialisé en rien. C'est parce qu'on ne peut pas nous vexer, quoi, quand on dit ouvrier spécialisé. Et je voyais que dans ce microcosme-là, il y avait ce qui déterminait l'ensemble du système social, c'est-à-dire la productivité, la divinisation du travail. Ah, le travail, le travail des dieux, d'accord, bien travailler, mais à la condition que le résultat de mon travail s'inscrit dans une équité, mais pas dans une disparité. Alors ça m'a rappelé ce qui s'était passé chez nous, dans l'Oasis de Kenaza, donc le sud algérien, colonisé par la France, on découvre du charbon, les Français veulent exploiter ce charbon, ils embauchent les gens, les mineurs, qui deviennent des mineurs, et c'est là que mon propre père, forgeron, poète, musicien, perd son travail puisqu'il n'a plus à forger les outils du cultivateur, qui ne sont plus cultivateurs, qui sont des salariés mineurs, etc. D'où le grand bouleversement de notre système social par le charbon. Et symboliquement, ben, ces gens qui descendent comme des taupes dans les entrailles de la terre en ressortent tout noir, souillés, et mon propre père obligé de faire pareil, et ça a été pour moi une blessure énorme parce que j'ai senti cet homme qui faisait chanter l'entrée toute la journée, qui était libre, qui le soir faisait chanter les gens, qui était d'une grande légèreté, grande liberté. Je le vois revenir tous les soirs souillé, noir, charbon, et aliéné, profondément aliéné. C'est-à-dire un être humain qui est voué à ça. Voilà l'industrialisation. Je crois que ça m'a ensemencé, sur le moment je n'ai pas un instant de mais ça m'a ensemencé de la rébellion que je devais avoir après, sans que je fasse le lien. Et dans ces milieux-là, quand les gens, dans les premiers temps, quand ils avaient perçu leur salaire, certains ne revenaient pas travailler, ou revenaient un mois après. Et quand ils revenaient travailler, qu'est-ce qu'on leur demandait ? Pourquoi tu n'es pas venu travailler, etc. Évidemment, ils se faisaient sonner les cloches, comme on dit. Et ils répondaient naïvement, mais monsieur, je n'avais pas fini de dépenser des sous. C'est-à-dire pour eux, ils me disent, puisque j'ai de quoi vivre, eh bien, je vis. Voilà. c'est ce qu'on trouve dans notre système. Et cette notion du travail, l'élimination du travail pour la production, la productivité en tant que telle, là aussi, deuxième facteur important du monde moderne, productivité à tout prix. Il y en a trop, mais non, ça fait rien, on continue. Il y a trop de produits agricoles, c'est pas grave, il faut produire, c'est subventionné, etc. Et donc cette outrance, cet excès est quelque chose d'absolument inconscient. Et tout cela, sous la bannière d'un programme qui est censé améliorer la condition humaine. Et donc cette aliénation n'est pas prise en compte comme faisant partie véritablement de perte de profit d'un système qui, en fait, dont le métabolisme est de produire de la finance, et même de l'argent, peu importe les effets produits sur la communauté humaine et les citoyens. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Peu importe le citoyen, on le met dehors pourvu qu'on sauvegarde les capacités à produire des ressources. Et tout ça, c'est la bannière de... Vous allez voir, la modernité, la science, la technique va libérer l'être humain. D'abord, moi, travaillant au boulot dodo, je ne voyais pas en quoi j'ai été libéré. Et puis, quand on examine l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce qu'on trouve? De sa naissance à sa mort. Et bien, de la maternelle jusqu'à l'université, il est enfermé. Ensuite, il y avait les casernes pour les hommes, mais un peu moins maintenant. Et quand on demande aux gens où est-ce qu'ils travaillent, tout le monde travaille dans des boîtes. Travaille dans une petite boîte, travaille dans une grande boîte. Voilà. Même pour aller s'amuser, on va en boîte. Et on y va comment? Dans sa caisse, enfin. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux en attendant, enfin la boîte où on stocke les vieux en attendant la dernière boîte. Comme destiné, il y a quand même à se poser des questions sur véritablement. Ben ça s'appelle l'aliénation. C'est-à-dire l'aliénation de l'être humain. Manipulé, à tel point manipulé par un système qui ne lui dit jamais satisfaction, mais qui lui dit toujours insatisfaction. C'est-à-dire comment faire la frustration programmée, c'est-à-dire toujours plus, indéfinie, sans aucune limite, et l'être humain manipulé ne soit jamais satisfait. Toujours quelque chose. Et la publicité, on accuse beaucoup les sectes soi-disant manipulés, mais la publicité ne fait pas la force à recherche également. Manipule les êtres humains à être toujours insatisfaits. Et on nous appelle consommateurs. Je ne veux pas qu'on m'appelle consommateur. C'est qu'il est sûr. Je suis d'abord un être humain avant d'être un consommateur. Vous voyez ces petites nuances, on n'en a l'air de rien, mais ce sont des nuances extrêmement importantes. Et aujourd'hui, pouvons-nous être conscients de notre inconscience? Tout le problème est là.